Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
La question de la collégialité et le rapport des évêques avec le ministère de Pierre suscite beaucoup d'attentes dans l'Église. Le pape François l'a confirmé au cours d'un échange informel avec les membres du conseil ordinaire du synode. Le pape François, qui occupe la charge d'évêque de Rome depuis 3 mois, tout juste, il séduit les foules, bouscule son entourage et complique parfois le travail des journalistes. C'est la une de ce magazine. Nous parlerons également de l'Institut pour les œuvres de religion. Nous parlerons de la sollicitude de l'Église pour les enfants malades. Et puis, vous entendrez l'archevêque de Lille qui a présidé les obsèques de Pierre Mauroy. Pour le pape François, la question de la synodalité dans l'Église est prioritaire. Il l'a expliqué ce jeudi matin en recevant les membres du 13e conseil ordinaire du secrétariat général du synode des évêques. Celui-ci est chargé d'élaborer les recommandations du dernier synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne et d'aider le Saint-Père à choisir le thème de la prochaine assemblée générale ordinaire. Cette rencontre aurait pu être institutionnelle, mais elle a donné l'occasion au pape François, contre toute attente, d'exprimer librement le fond de sa pensée sur des questions essentielles. Il a remis à ses interlocuteurs son discours préparé à l'avance, préférant répondre à leurs questions de manière informelle. Thomas Chabol.
Comment améliorer la coordination entre les évêques du monde entier et l'évêque de Rome, autrement dit la collégialité? Nombreux sont ceux qui, dans l'Église, souhaiteraient que soient trouvés de nouveaux chemins. Les 8 cardinaux conseillers que le Saint-Père a choisis pour l'aider à gouverner l'Église et à réformer la curie, et avec lesquels il travaille étroitement, lui ont confirmé qu'il y avait une réelle attente à ce propos. Le pape François pense que le secrétariat du synode pourrait jouer un rôle important dans ce domaine. Le conseil du synode pourrait devenir permanent et ainsi être convoqué et consulté par le pape. En clair, le ministère de Pierre devrait pouvoir s'appuyer sur la synodalité pour gouverner. C'est un défi, mais le souverain pontife est confiant. Allons de l'avant et sans crainte, a-t-il lancé à ses interlocuteurs. Il a par ailleurs confirmé qu'il était en train de mettre la dernière main à l'encyclique commencée par Benoît XVI pour l'année de la foi. Au cours de cet échange, le Saint-Père a également indiqué qu'il évoquerait la crise de la famille au mois d'octobre avec ses 8 conseillers. À cette occasion, on décidera à qui confier une étude sur la pastorale familiale. Par ailleurs, un 9e conseiller issu des églises orientales devrait s'ajouter au groupe pour combler un oubli qui a confié le pape à irriter les orientaux. Enfin, le Saint-Père est apparu préoccupé d'une manière générale par l'anthropologie contemporaine, par la laïcité qui se transforme en laïcisme, par les pratiques de la médecine contraires à l'écologie humaine.
Le pape François continue de créer la surprise et de prendre de court son entourage et les journalistes. Cela fait 3 mois que l'ancien archevêque de Buenos Aires est le 266e pape de l'Église catholique. La désarmante simplicité du personnage, sa jovialité, son langage accessible, sa parole décomplexée, sa franchise ont conquis les foules dès le départ. 3 mois après, l'engouement populaire et médiatique ne se dément pas. Fidèles et touristes accourent en nombre, place Saint-Pierre, aux audiences générales, aux Angélus du dimanche. On veut voir le pape, l'écouter, lui offrir des cadeaux, lui présenter les enfants, les malades. On veut le toucher, si possible, lui parler. La fourmilière journalistique est également sensible à l'effet François. Elle le répercute et l'alimente. Homélie du matin, audience privée et publique, lettres envoyées et appels téléphoniques à des amis, presque tout est porté à connaissance du public, sans que le pape l'ait forcément voulu et prévu. C'est une véritable révolution. Mais ce style décapant et cette parole libre sont souvent difficiles à gérer pour les communicants et journalistes présents au Vatican. Nous avons choisi de donner la parole à Jean-Louis de la Vessière, vaticaniste, correspondant de l'agence France-Presse à Rome. Il est interrogé par Manuela Figi.
Ah, c'est très frappant et c'est tous les jours qu'on a des surprises. D'entendre des surprises qui ne sont pas forcément faciles. Il parle énormément. Il y a cette messe tous les jours à Sainte-Marthe où il s'adresse vraiment à un petit groupe de fidèles, comme un curé un petit peu, avec des formules qui frappent, qui vont dans le cœur des gens. De temps en temps, il se répète aussi. Donc il faut faire le tri de toutes ces choses. Moi, en tant qu'agence de presse généraliste, je ne reprends pas les moindres déclarations parce que ça serait un petit peu lassant pour le lecteur. mais j'essaie de faire ressortir des points forts, des expressions marquantes, pas seulement pour le sensationnel, mais pour montrer comment il revivifie l'Évangile, en fait. À mon avis, ce pape dit la même chose que Benoît XVI. Benoît XVI le disait peut-être plus finement, plus en profondeur, mais ce pape va dans le cœur des gens. Je pensais encore ce matin, je me disais, hier à l'audience, il a parlé du travail des enfants, il a parlé du diable, il a parlé des disputes familiales. Je me suis dit, dans les bidonvilles des grandes villes du monde, tous ces gens qui écoutent ça à la radio, via Radio Vatican, souvent, ça les touche parce que c'est leur vie quotidienne.
Plusieurs fois, il faut l'admettre aussi, il y a eu quelques petits couacs. Comment interpréter ces paroles du pape? Est-ce qu'il c'est par pure honnêteté? Se rend-il compte de ce qu'il dit? Est-ce qu'il se rend compte de l'impact que ça aura dans les médias?
Je pense que c'est un homme malin, mais un homme très, très honnête. Et donc il veut un peu bousculer les choses, il veut dire les choses plus franchement, plus avec cette langue feutrée qu'on entendait tellement souvent dans l'Église. Donc il y a cette volonté un peu de choquer, peut-être par des expressions fortes, quand il parle des bonnes sœurs qui peuvent ressembler à des vieilles filles, etc. C'est un peu choquant et ça peut susciter des critiques dans certains milieux religieux, à juste titre. Mais il a cette volonté de faire circuler un air frais dans l'Église, en fait. Mais effectivement, par ailleurs, ça pose des problèmes d'authenticité. Quelle est la force de chaque parole? À mon avis, et les cardinaux le disent, la parole n'est pas aussi forte quand il parle à Sainte-Marthe ou quand il fait un discours dans la basilique Saint-Pierre devant des évêques réunis. Ce n'est pas du tout la même portée. Mais effectivement, pour les médias, ça sera la même chose. Et de temps en temps, ses propos sont rapportés par d'autres, comme ça a été le cas il y a deux jours, sur la corruption dans l'Église, le lobby gay, etc. Ça fait boule de neige, bien sûr. Les médias sont à l'affût de certains sujets.
Vous venez à l'instant d'évoquer cette parole qui était peut-être parfois un peu trop feutrée dans l'Église. Et on a constaté qu'il y avait une certaine libération de la parole. On l'a constaté lors des congrégations générales avec les cardinaux, après le conclave. Et c'est maintenant le boom, si on peut s'exprimer ainsi, avec le pape François. C'est salutaire pour l'Église?
Je pense que c'est salutaire parce que il ne s'agit plus de s'adresser simplement à un petit troupeau. On disait souvent ça du pontificat de Benoît XVI, il voulait vraiment des gens convaincus, mais c'était surtout pour les initiés. Maintenant, cette idée des périphéries existentielles, c'est d'aller vers les gens dans leur situation, pas seulement de pauvreté matérielle, mais aussi de pauvreté morale et spirituelle, dans toutes les situations, dire que le Christ les accueille. Et donc, c'est cette parole directe qui peut être imprudente, mais qui, à mon avis, est utile.
Et vous, en tant que journaliste, là, je parle d'un point de vue strictement personnel et professionnel, tous ces changements, ces bouleversements qu'on constate, est-ce que c'est stimulant pour vous? C'est au contraire un peu une prise de tête?
Non, c'est très stimulant. Mais par moments, ça va un peu dans tous les sens. Donc on a du mal à ordonner ses pensées, de savoir. Il y a énormément aussi d'analyse, parce que ce pape suscite énormément d'analyse, de spéculation. On sent que déjà la presse italienne voudrait en faire tel personnage, les Allemands voudraient en faire un autre, etc. Parce que chacun s'imagine, c'est un peu ce qu'il est. À mon avis, il veut que l'Évangile arrive à tout le monde. C'est ce vent d'air frais qui nous est arrivé et qui n'est pas toujours facile à gérer. Mais tout ce qui se fait avec François a été préparé par Benoît, parce qu'il a travaillé sur le long terme, il a travaillé pour apurer le message de l'Évangile dans des très belles homélies, catéchèses, une pensée très claire qui reste le fondement, à mon avis, pour l'Église. Et on a vu ce pape Benoît, on l'a caricaturé comme quelqu'un à contre-courant, fermé sur le monde. En fait, il avait une immense attention pour le monde. Et donc, pour moi, ce que dit François, avec beaucoup de talent, c'est le même message. Simplement, il le revitalise, il le rend proche des gens.
C'était le vaticaniste de l'agence France-Presse, Jean-Louis de Lavessière. L'Institut pour les œuvres de religion, l'IOR, doit faire preuve d'une tolérance zéro envers les transactions suspectes et mettre fin à la culture du silence qui prévalait en son sein. C'est son président Ernst von Freiberg qui l'affirme dans un entretien avec l'AFP, justement. Le 1er octobre, un rapport annuel sera présenté, comme le font toutes les banques, et chacun dans le monde pourra le consulter sur Internet. Olivier Bonnel.
L'IOR doit redevenir un membre bien accepté du système financier international, juge cet industriel allemand qui avoue tout ignorer le projet de réforme du pape François qui pourrait avoir des implications sur l'Institut. Son objectif très concret, faire en sorte que le processus international Moneyval, qui vérifie la transparence du Saint-Siège en matière de lutte anti-blanchiment, puisse être mené à bonne fin dans les prochaines semaines. Beaucoup de choses, assure-t-il, sont déjà en place. Ernest von Freiberg veut aussi améliorer la réputation de Lior, afin, dit-il, que le message de l'Église ne soit plus assombri par de mauvaises nouvelles venant de nous. Il reconnaît qu'il y a eu des choses incorrectes, mais aussi des rumeurs et des calomnies. Quant à la culture du silence, elle ne naît pas, selon lui, de mauvaises intentions, mais elle a eu des effets néfastes, car quand on se tait, on est perçu comme ayant quelque chose à cacher. Il faut donc mettre fin à ces rumeurs. Cela passe par des actions juridiques immédiates contre les calomnies dans les médias, une communication interne organisée et moderne, des visites aux cardinaux pour leur expliquer ce que fait Lior. Enfin, le baron von Freiberg rejette toutes les spéculations qui circulent dans la presse quant aux intentions du pape François. « Personne n'en sait rien », a-t-il assuré.
L'ancien Premier ministre français Pierre Mauroy a reçu ce jeudi à Lille un ultime hommage de la nation ainsi que de la région. Les Lillois se sont à nouveau recueillis en mémoire de leur ancien maire au son des sirènes de la ville. Ces funérailles ont été célébrées dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille par l'archevêque de la ville, Mgr Laurent Ulrich. Pierre Mauroy est mort vendredi à l'âge de 84 ans. Mgr Ulrich revient sur le parcours de Pierre Mauroy qui a toujours cherché à maintenir le dialogue avec la communauté catholique lors de ses différents mandats politiques.
Il était de double ascendance, catholique du côté de sa mère et plutôt socialiste et anticlérical du côté de son père. Il a fait dans sa personne la synthèse des deux origines en ne reniant ni l'une ni l'autre. On connaît peut-être l'épisode qu'il a raconté dans ses mémoires, dans lequel il a manifesté qu'à l'époque, quand il est entré chez les Jeunesses Socialistes, il avait refusé de manger de la viande le vendredi saint, ce qu'on lui demandait de faire. Il avait refusé en disant « Non, ça je ne le ferai pas, je ne saurais pas faire ça devant ma mère ». Il ne voulait pas renier cet aspect. Par là, il s'est montré aussi courageux dans ses propres positions. Je l'ai entendu dans une interview publique, dire que le signe de la croix, pour lui, ne le gênait pas. Il a évoqué aussi sa propre mort, l'attendant sereinement, faisant confiance que le ciel pour lui était habité. Il se mettait dans la situation de quelqu'un qui va à rendre sa vie à Dieu. Dans sa municipalité, il y avait de façon très nette les personnalités du monde catholique, reconnues comme telles. Semble-t-il pas par calcul politique, mais il disait « on ne peut pas être le maire de Lille en ignorant toute la composante catholique de cette ville ».
L'archevêque de Lille, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Toujours en France, l'inscription en mémoire de Clément a été découverte sur un mur extérieur du collège des Bernardins lundi à Paris. Les graffitis ont été effacés dans la nuit de mardi à mercredi par les services de la mairie. L'inscription faisait référence à la mort du militant antifasciste Clément Méric dans une altercation avec des membres d'un groupe d'extrême droite. Quelques jours plus tôt, les mots « droit canonique égale charia » avaient été écrits sur le portail d'entrée de la cathédrale de Limoges. À Nantes, après la profanation de la cathédrale Saint-Pierre, c'est un collège et lycée privé qui a été ciblé. Des inscriptions injurieuses, notamment envers les catholiques, des dessins obscènes et des messages sataniques recouvraient une partie des murs de l'établissement. Une semaine auparavant, l'inscription « Mort aux cathos » était découverte sur le mur extérieur de la basilique Saint-Sernin à Toulouse. Enfin, le cimetière catholique de Besançon a été profané. L'archevêque de la ville, Mgr Lacrampe, s'est associé à l'indignation générale devant ces actes répétitifs de vandalisme. J'ajoute qu'en Israël, plusieurs pierres tombales du cimetière chrétien orthodoxe de Yafo ont été souillées par des graffitis. La police israélienne a ouvert une enquête. L'information a été rapportée par un quotidien israélien. Plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont on ignore les noms, ont accepté d'ouvrir leurs frontières à quelques 2000 migrants africains, principalement érythréens, qui se trouvent actuellement en situation d'irrégularité en Israël. L'État hébreu fournirait en contrepartie à ses partenaires une aide militaire, technologique et agricole. Ces immigrés clandestins, 62 000 à ce jour, pénètrent en territoire israélien par le Sinaï au terme d'un voyage périlleux, voire mortel pour certains. Beaucoup arrivent d'Érythrée, du Soudan, d'Éthiopie, fuyant la guerre, la violence, la persécution, la pauvreté. Israël leur refuse pourtant le statut de réfugiés et s'attache à enrayer ce phénomène d'immigration clandestine. Le patriarcat latin de Jérusalem a fait part de son inquiétude face à cette menace importante de déportation. Écoutez le père David Neuhaus, coordinateur de la commission des collaborateurs pastoraux, engagé dans le travail auprès des travailleurs immigrés et des demandeurs d'asile. Il est interrogé par Manuela à Fidji.
Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ce plan est annoncé. Il faut dire que tout autant que nous ne connaissons pas les détails et le nom du pays n'est pas mentionné, l'autre jour ils ont dit que ce n'était pas un seul pays mais plusieurs pays, mais tout autant que tout est secret, la réaction doit être mitigée. Je pense qu'on peut dire bien sûr que l'Église, en solidarité, en communion avec toutes les organisations des droits de l'homme, ne voit pas avec un bon œil à la déportation des gens qui cherchent ici la sécurité et la protection de leur pays. Ce n'est pas acceptable, selon les principes internationaux, de déporter les gens de cette façon. Maintenant, Israël, jusque maintenant, a exigé que ceux qui sont déportés signent des accords. Mais bien sûr, quand on parle de 100 et de 1500 personnes qui sont emprisonnées, c'est une signature sous duresse. Et pour cela, nous sommes très préoccupés par cela aussi.
Peut-on justifier cette décision par le besoin sécuritaire d'Israël ?
La sécurité joue un certain rôle, mais la question des réfugiés, des gens qui cherchent d'asile, c'est un problème mondial. Le Saint-Siège, récemment, a publié un nouveau document là-dessus. Le pape a adressé cette problématique il y a quelques jours. C'est un problème partout au monde. Bien sûr, en Afrique, c'est un problème de dimension très, très grande. Il faut se souvenir, et je pense que cela est important de rappeler, que les Africains ont commencé d'arriver en Israël en grand nombre quand l'Europe a fermé ses frontières en signant des accords avec les pays de l'Afrique du Nord. Et maintenant, Israël aussi voit une nécessité dans le traitement radical de ce problème, qui n'est pas uniquement un problème sécuritaire, c'est un problème qui touche la situation économique. Et bien sûr, ça joue aussi. Il y a un certain racisme dans le fait que si ces gens ont été des Européens du Nord, peut-être la réaction sera très différente. Les pauvres qui arrivent ici, les plus grands nombres viennent de l'Érythrée. Nous avons encore des Soudanais, des Congolais. Un problème qui touche profondément le travail de l'Église, c'est l'accueil de ces gens, mais pas uniquement l'accueil de ceux qui arrivent en tant que réfugiés, mais aussi la jeune génération qui est née pendant le voyage, ou même en Israël. Ces petits qui connaissent uniquement Israël, sont un souci particulier pour l'Église.
C'était le père David Neuhaus, coordinateur de la commission des collaborateurs pastoraux, engagé dans le travail auprès des travailleurs immigrés et des demandeurs d'asile pour le patriarcat latin de Jérusalem. À noter la tenue d'un colloque sur le thème « La mer unie, la terre ne divise pas » à l'université pontificale grégorienne organisée par le Centre des Jésuites à Stalli de Rome à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié le 20 juin prochain. L'Église se penche sur la souffrance des enfants malades. C'est par une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre que s'ouvrira ce vendredi un congrès international de 2 jours organisé par le Conseil pontifical pour la pastorale de la santé et par la fondation Le Bon Samaritain. Plus de 200 participants venus d'une trentaine de pays, personnels de santé, aumôniers, bénévoles, psychothérapeutes, parleront des enfants malades et des différentes approches thérapeutiques. Cette initiative qui se situe dans le cadre de l'année de la foi coïncide en cette fin de semaine avec les journées de l'Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, sur la défense de la dignité de la vie, célébrées les 15 et 16 juin à Rome. La messe d'ouverture à 8h vendredi matin sera présidée par Mgr Zimowski. C'est lui qui inaugurera un peu plus tard les travaux proprement dits. Ils s'achèveront par une table ronde samedi sur le défi que constitue pour l'Église et la société la prise en charge des enfants qui souffrent. Des représentants des églises locales venues des 5 continents feront part de l'expérience de quelques conférences épiscopales. Les témoignages et les expériences concerneront des contextes économiques, sociaux et culturels diversifiés. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Merci de votre fidélité.